Bonjour à tous. Mon meilleur vœu, hein, c'est la période, n'est-ce pas? On souhaite tant de choses. Nous avons déjà été encouragés ce matin à nous tourner vers le Seigneur. Je vais prier et puis après, j'inviterai Pierre pour nous lire ce premier chapitre du livre d'Esther. Prions. Dieu notre Père, nous te bénissons parce que tu es bon envers nous. Tu es le Seigneur Tout-Puissant, tu es élevé au-dessus de tout et nous te devons tout. Notre être, souffle de vie et tant de belles choses que tu nous accordes. Merci Seigneur. Nous voulons te servir en ce début d'année. Ouvre nos oreilles pour écouter ce que tu as à nous dire. Et conduis-nous, Seigneur, dans ta volonté. Donne-nous d'être soumis à ta parole. Donne-nous de la mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Amen.
Esther chapitre 1. C'était à l'époque d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Le roi Assuérus siégeait à ce moment-là à Suse, la capitale. La troisième année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes et serviteurs. Les responsables militaires des Perses et des Mèdes, les nobles et les chefs des provinces furent réunis devant lui. Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours. À la fin de cette période, le roi organisa un banquet pour toute la population de Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. Celui-ci dura 7 jours et eut pour cadre le jardin du palais. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de fin lin et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits en or et en argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des récipients en or, tous différents les uns des autres. Et il y avait du vin royal dans une abondance qui reflétait la puissance du roi. Cependant, conformément au décret, on ne forçait personne à boire. En effet, le roi avait ordonné à tous ses serviteurs de se conformer à la volonté de chacun. De son côté, la reine Vashti organisa aussi un banquet pour les femmes du palais royal d'Assuérus. Le 7e jour, placé dans de joyeuses dispositions par le vin, le roi Assuérus ordonna à Mehuman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui étaient à son service, de faire venir devant lui la reine Vashti, coiffée de la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et au prince. En effet, c'était une belle femme. Cependant, la reine Vashti refusa de venir quand les eunuques lui transmirent le message du roi. Le roi s'en montra très fâché et en nourrit une ardente colère. Il s'adressa donc aux sages astrologues, car c'était ainsi que se traitaient les affaires royales, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Son proche entourage était composé de Karchéna, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marséna, Memoukan. Ces 7 princes de Perse et de Médie étaient admis en présence du roi et occupaient les premières places dans le royaume. Il leur demanda « D'après la loi, comment faut-il traiter la reine Vashti suite à son refus de respecter l'ordre du roi Assuérus transmis par les eunuques ?» Memoukan répondit devant le roi et les princes « Ce n'est pas seulement vis-à-vis du roi que la reine Vashti s'est mal comportée. C'est aussi vis-à-vis de tous les princes et de tous les peuples qui habitent toutes les provinces du roi Assuérus. En effet, l'attitude de la reine déteindra sur l'ensemble des femmes et les incitera à porter un regard méprisant sur leur mari. Elles diront, Le roi Assuérus avait ordonné qu'on fasse venir la reine Vasti devant lui, et elle n'y est pas allée. Aujourd'hui, déjà, les princesses de Perse et de Médie qui ont entendu parler de l'attitude de la reine s'adresseront de la même manière à tous les princes du roi, ce qui entraînera beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le juge bon, il devrait émettre un édit royal et l'inscrire dans les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de l'enfreindre. Cet édit interdirait à Vasti de se présenter devant le roi Assuérus et préciserait que le roi donnera le titre de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Le décret du roi sera connu dans tout son royaume, malgré son immensité, et toutes les femmes honoreront leur mari, du plus grand au plus petit. Les rois et les princes trouvèrent le conseil bon, et le roi agit conformément à la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes ses provinces, à chaque province dans son écriture, et à chaque peuple dans sa langue, pour dire que tout homme devait être le chef de son foyer et y parler sa langue maternelle.
Merci Pierre pour la lecture de ce premier chapitre du livre d'Esther. Vous venez d'entendre une lecture d'une vie faite de strass, de paillettes, mais aussi de déchéance. Et les strass et les paillettes ne sont pas quelque chose qui est d'aujourd'hui, comme on vient de le lire, ni la puissance d'un homme manifeste. Et l'actualité est là pour nous rappeler que l'humain a cette tendance à manifester, à exprimer sa puissance, en la montrant parfois de manière arrogante. On a entendu un candidat à la présidentielle en pleine campagne en 2024 qui promettait de rétablir en 24 heures la paix dans un pays européen. Cette paix, nous attendons toujours de la voir se réaliser. Et continuellement, nous sommes abreuvés de propos de démonstration de puissance. Et la dernière actualité, Eric en a parlé tout à l'heure, on va démettre un chef d'État parce qu'on est puissant. L'Ecclésiaste nous dit, au chapitre 1er, le verset 9, « Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Autrement dit, ce que nous vivons aujourd'hui, d'autres l'ont expérimenté. Et c'est un appel à la sagesse, c'est un appel à l'humilité. Elles nous font cruellement défaut aujourd'hui. Le livre d'Esther s'ouvre par la célébration de la fête du roi Assuérus. La vie dans l'empire médo-perse, et notamment au palais royal, elle est rythmée par l'organisation de fastueux banquets richement arrosé de vin. Selon l'historien Hérodote, les Perses buvaient tout en traitant les affaires de l'État parce qu'ils étaient persuadés que cela les rapprochait du monde spirituel. Le livre d'Esther met en évidence le thème de la souveraineté de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que dans ce livre, à aucun moment, le nom de l'Éternel n'est cité. Cependant, on est frappé par des coïncidences. La perfection qu'elle démontre ne laisse aucun doute sur la main invisible qui agit à travers les différents personnages. Le courage qui anime Esther et Mardoché est particulier et exceptionnel. Dans un monde où la vie tient à la décision, capricieuse ou pas, d'un souverain, Esther et Mardoché affichent une audace rare. Le plus remarquable, c'est que cela fonctionne. Le livre d'Esther met aussi en lumière la notion de service. Les personnages de Mardoché et Esther sont des personnes ordinaires qui vont être au service d'une destinée extraordinaire. En effet, le plan de l'Éternel consiste à sauver ce peuple déporté en Babylonie. Au chapitre 4 et le verset 14, Mardochée ouvre la réflexion d'Esther et lui rappelle la raison pour laquelle elle est là à ce moment précis. Cette place lui offre la possibilité de servir. Il est question de servir son peuple d'origine au-delà de satisfaire, et en plus de satisfaire les desseins du Seigneur. Ce livre d'Esther attire l'attention du lecteur sur la question de l'obéissance. Quand et à qui faut-il obéir? Esther, par exemple, choisit d'obéir à Mardochée et ne révèle pas son identité juive. Mardochée refuse de se soumettre à Aman alors qu'il écoute le commandement, l'injonction d'Esther. Un autre thème qui est mis en évidence dans ce livre est celui de l'orgueil. Aman, de par sa position dans l'Empire, s'attend à recevoir certains honneurs et il exige de la part de Mardochée que celui-ci lui fasse honneur par rapport à sa position. Et la fin de cet homme orgueilleux confirme l'enseignement de Proverbe 16, verset 18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Si le Seigneur le permet, nous verrons de manière détaillée ces différents thèmes tout au long de cette lecture dans le livre d'Esther. Ce que nous voyons en introduction de ce chapitre, c'est l'exposition de la puissance d'un roi. L'Empire perse couvre 127 provinces. Il s'étend depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et aux yeux des humains, cela peut être impressionnant. Notre Seigneur, notre Dieu, tout-puissant ne l'est pas. Il n'en est d'ailleurs pas surpris. Lorsque nous lisons Daniel, au chapitre 11, les versets 1 à 6, il y a une description claire de ce royaume. Et Daniel prédit d'ailleurs la fin de ce royaume. L'Empire médo-perse, écrit Daniel, sera brisé et divisé en quatre coins, aux quatre coins du ciel. Daniel 11, verset 4. Alors pourquoi le roi réunit-il les princes de ce royaume, les responsables militaires? Est-ce pour préparer une expédition contre le royaume de Grèce dont parle Daniel? Une manière de confirmer le texte biblique. Et les historiens confirment cette manière de procéder des rois. Avant des campagnes militaires, ils organisent des banquets pour montrer leur puissance. C'est aussi l'occasion de construire des stratégies de conquête de territoire et acquérir de nouvelles richesses en vue d'étendre son pouvoir. Il nous paraît juste de souligner ces éléments qui n'apparaissent pas dans le texte que nous avons lu, non seulement pour mettre en lumière le fait que le monde n'est pas en roue libre sous le pouvoir matériel de quelques puissants. Ceux qui, pour l'instant, ont certaines ou assument certaines responsabilités, mais pour montrer que le Seigneur est attentif à ceux qui sont les siens. Le Seigneur veille sur le bien-être de ses enfants, quelle que soit l'histoire du moment. Être à la tête d'un royaume comme celui qui est décrit nécessite des relais forts, puissants, nombreux pour asseoir son autorité. Et on peut aisément comprendre la fierté du roi. La cour royale est transformée en un siège de la démesure. Le nombre et la qualité des invités, le nombre de jours mis à part pour festoyer. La description du décor traduit un environnement particulièrement luxueux. Le roi fait étalage du prestige de sa fonction et de la splendeur, de sa grandeur. après 180 jours de festivités avec les invités de choix, le roi n'oublie pas les masses populaires. Nous sommes toujours dans le palais, et cette fois dans les jardins du palais. Un second banquet est organisé pour accueillir la foule. Un banquet réservé aux hommes, aux mâles. Puisqu'il y a un troisième banquet, disons un banquet annexe, qui est plutôt le fait des femmes, où se trouve Vasti, la reine. Au verset 7 et 8, il y a un accent qui est mis sur l'abondance du vin. Et l'auteur présage déjà, pour le narrateur, des surprises qui vont surgir. Après une consommation de vin sans limite, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des choses pour le moins surprenantes. Et le ton est donné sur l'importance des banquets dans ce livre. En à peine 9 versets, on compte déjà 3 banquets. Cette description ne semble pas très éloignée de ce que nous connaissons ou entendons dire de certains milieux chics. La jet set ne semble pas étrangère à cette description. Et les récentes condamnations d'un éminent rappeur et homme d'affaires états-unien témoignent du fait qu'il n'y a rien de nouveau. Depuis l'Empire médo-perse jusqu'à nos jours, nous sommes dans les mêmes habitudes. Les photos récemment publiées des autorités américaines, états-uniennes, avec des personnalités du monde cinématographique sont suffisamment éloquentes pour mettre en évidence le péché qui touche l'être humain et qui traduit de manière tout à fait claire que nous avons besoin d'un sauveur. Dans cette déchéance du monde, le Seigneur reste focalisé sur ce qui importe, éloigner la mort qui rôde autour des humains. Après cette description époustouflante de ce cadre, ce que le lecteur attend ne tarde pas à se produire. Le roi est en joie. Il se sent le désir d'aller plus loin. Il y a ici quelques trophées qu'il voudrait présenter au peuple et à ses invités. Le roi se sait puissant. Il se sait admiré. Rien ne peut ni ne doit lui résister. Il suffit qu'il ordonne pour que tout se passe selon sa volonté. Dans sa superbe, le roi se met en mission des eunuques pour aller chercher la reine. Tout le faste précédemment présenté perd de son éclat. La belle machinerie se grippe. Le roi puissant se prend littéralement une tarte dans le visage. Quelle ironie! Un puissant qui voit sa puissance anéantie par un acte bête de refus. Vasti, la reine, refuse d'obtempérer à l'ordre royal. Quelle toupée, pourraient dire certains. Quelle toupée de remettre en question l'autorité royale. Le roi est publiquement humilié. Et les textes bibliques n'expliquent pas les raisons du refus de la reine. Mais certaines interprétations l'expliquent. Il est question de la lubricité des Perses, ivres. Et l'historien Hérodote les décrit lors des dîners grecs. Ils avaient l'habitude de se retrouver et à un certain moment, quand le vin prenait toute la place, on faisait venir des musiciennes et des concubines. Et je vous laisse imaginer tout ce qui pouvait se faire à ce moment. Et les commentateurs disent que Vasti n'a pas voulu rentrer dans ce jeu. Elle a voulu garder son rang de reine. Et on peut la comprendre.
Cette attitude serait donc pour certains justifiée. Malheureusement, Vasti se trouve prise entre deux feux, celui de l'éthique et celui de l'ordre royal. Comment choisir entre la peste et le choléra? Si le texte est silencieux par rapport au refus de Vasti, il est par contre explicite sur l'ambiance qui y règne. Cette ambiance n'était probablement pas propice à la venue de la reine. Ce qui est étonnant, c'est que dans ce texte, on ne décèle pas la désapprobation du narrateur au sujet de l'attitude de Vasti. Le refus de sombrer dans l'absurdité de l'ordre royal expose la reine au système en place. On a affaire à une machine impitoyable qui écrase. Elle écrase tous ceux qui s'opposent à elle. Et nous conduit ainsi à la troisième réflexion, au troisième point de notre réflexion. Le roi, se sentant humilié, va convoquer un conseil. Au septième jour, qui devait être celui de l'apothéose, suite à cette série de banquets, le texte exprime l'état de joyeuse disposition du roi. On s'attendrait à un feu d'artifice. L'entrée de la reine mettrait le feu aux poutres. Mais l'artificier, malheureusement, se retrouve avec des pétards mouillés face à cette fin de non-recevoir de la reine. La délégation désignée pour aller chercher la reine rentre bredouille. Un véritable coup de tonnerre dans un ciel bleu. Les invités prestigieux du roi sont présents. Les couches populaires sont là. On est dans un scénario grotesque et on rit jaune. Ceci est semblable à un fiancé qui, après avoir discuté avec sa dulcinée, se rend chez le bourgmestre. En accord avec cette dernière, ils ont fixé le jour de la célébration officielle de cette rencontre, et le fiancé se retrouve devant le bourgmestre à attendre la fiancée des heures durant. Et la fiancée ne vient jamais. Entre-temps, les invités sont là, tout le monde est présent. Quelle honte! Et cela ne peut provoquer qu'une réaction. Chez le roi, en tout cas, il se rebiffe. Et le texte insiste sur la colère qui s'exprime au verset 12, partie B. Le roi s'en montra très fâché et en nourrit une ardente colère. Et dans la suite du livre d'Esther, cette émotion conduit à des décisions graves qui ne sont pas toujours heureuses. Le roi est dos au mur. Il lui est impossible d'annuler l'ordre royal. Et sans réaction face à l'attitude de la reine, le roi perd toute crédibilité. Et pour un chef militaire, c'est très grave. Parce que finalement, qui l'écoutera? On lui dira, t'es chef militaire, mais t'es incapable de faire obéir ta femme. Dans sa volonté de laver l'affront de Vasti, le roi convoque les sages, ceux qui sont habilités à dire le droit. Et le roi laisse ainsi transparaître un visage sombre de son caractère. Il est rempli d'orgueil et pourtant faible. L'orgueil lui est conféré par la machine en place, la machine administrative. Les lois des Mèdes et des Perses sont des lois irrévocables. Et pourtant, la faiblesse du roi se voit dans son incapacité à maîtriser ses émotions. La fureur qui l'étreint le conduit à la violence. Par ailleurs, malgré son titre de roi, il est soumis à un fonctionnement administratif établi dans la cour. En effet, il y a un processus décisionnel qui doit être observé. Premièrement, il faut présenter le problème. Et c'est ce que Laura va faire au verset 13. Deuxièmement, il y a une prise de parole. Les conseillers, c'est les conseillers qui doivent réagir. Verset 16. Et il y a une mise en exécution au verset 21. Et ce sera ce que va faire Memucan, un des conseillers du roi, au fonctionnaire qui va intervenir en présence en présentant un argumentaire en trois sections. La première chose, c'est qu'il risque d'avoir un impact généralisé. Si le roi ne réagit pas, toutes les femmes du royaume risquent de se montrer arrogantes, insoumises. Un effet de contamination, en deuxième lieu, les versets 17 à 18. Et il finit par présenter la solution idoine, les versets 19 et 20. La proposition de Memucan ne fait pas l'objet d'un débat, malgré sa gravité et son caractère discutable. Les arguments avancés semblent quand même légers. Peut-on imposer l'honneur et le respect par un édit? Il est discutable de croire qu'une femme respecte son mari parce qu'il y a un édit qui a été énoncé, parce qu'il y a un ordre royal qui le demande. Par ailleurs, quel est le cadre de prise de cette décision? Nous avons dit en introduction que l'atmosphère qui y règne est une atmosphère imbibée de vin. Autrement dit, ces gens qui prennent des décisions ne sont pas dans un état lucide. Ils sont dans un état autre. Peut-on donc s'attendre à des décisions rationnelles, légitimes, justes? Par ailleurs, pourquoi est-ce qu'il faut punir toutes les femmes du royaume à cause d'une seule? Dans le livre d'Esther, où Dieu est volontairement éclipsé, son autorité subsiste, certes imparfaitement, mais elle est présente. L'humain ne devient pas Dieu, même s'il s'arroge des pouvoirs divins. Pour être une autorité qui porte un discours qui fera écho dans la population, peut-être vaut-il mieux chercher la volonté de Dieu et s'y soumettre. Le roi Assuérus, dans sa manière d'agir, laisse transparaître le type de puissance de Dieu, un Dieu souverain. Il est libre d'élever et d'abaisser, de faire grâce ou de laisser mourir. Lorsque Assuérus, par exemple, promeut Esther ou Mardoché, il présente ce type de souveraineté, la souveraineté divine. Esther ou Mardoché n'ont aucun mérite, mais le Seigneur se sert d'eux pour un dessein qui dépasse leur compréhension. Assuérus, bien qu'un type de la figure divine, garde les travers du péché, ce péché qui impacte l'humain, ce qui fait que ce dernier est incapable d'incarner de manière parfaite les attributs du Seigneur. Les conséquences de l'édit, même quand il est publié, ne font pas oublier l'humiliation subie par le roi. La destitution de Vasti permet par contre l'entrée en scène d'une épouse, ce qui fera basculer le dessein d'une nation, d'un peuple, le peuple d'Israël. En conclusion, le roi Assuérus, figure majeure de ce livre, se présente avec des attributs divins. Il traduit l'orgueil qui habite l'humain une fois que quelques pouvoirs lui sont remis. Cette réalité du monde médo-perse reste d'actualité. Notre monde est conduit par certains dirigeants qui s'arrogent des pouvoirs divins. Le peuple de Dieu ne peut pas se laisser distraire par ce qui se passe autour de lui. Il est appelé à rester soumis à l'Éternel, parce que l'Éternel veille et le protège. Malgré les soubresauts qui jalonnent l'histoire humaine, le Seigneur reste au contrôle. Et cela est rassurant que nous puissions nous le rappeler. Seul l'Éternel est tout-puissant. Rien ni personne ne résiste à son autorité. Le faste et l'agitation des hommes n'impressionnent pas l'Éternel. Il est au-dessus de tout. Quand bien même son visage ne brille pas de manière étincelante, il reste celui qui contrôle l'histoire humaine. Que la confiance en l'Éternel de tous ceux qui croient demeure, principalement en ce début d'année. Si nous avons un challenge à relever, ce serait celui de rester fidèles au Seigneur par notre volonté, dans notre attitude, parce qu'il est le véritable roi, celui que nous sommes appelés à servir. La deuxième chose, c'est que nous avons cette nécessité de l'obéissance à Dieu. Cette obéissance à Dieu est seule digne de respect. Il ne s'agit pas de se montrer rebelle à l'autorité sur notre lieu de travail, en contestant ce qui est fait. Mais il s'agit de nous montrer obéissant à ce que la parole de Dieu nous enseigne, à la mettre en pratique. L'obéissance à l'Éternel est source de salut. Assuérus, le roi, souhaite que les peuples de son royaume apprécient la beauté de sa femme. La beauté de nos actes qui reflètent le caractère de Dieu peut être la bonne nouvelle que nous pouvons porter tout au long de cette année. L'Épître aux Galates met en lumière les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Un vaste chantier pour notre foi. Et c'est peut-être l'occasion pour nous de renouveler notre engagement pour le Seigneur. Les lois et les édits des Mèdes et des Perses n'ont pas toujours été justes. La parole de Dieu nous invite à pratiquer la justice. Et cela consiste à tenir en compte quatre catégories de personnes. Les veuves, les orphelins, les migrés et les pauvres. Il s'agit de prendre soin de ces personnes. Je suppose que dans chacune de nos familles, nous avons des veuves, nous avons peut-être des orphelins. Nous vivons des temps où il est déconseillé d'être immigré. Dans certains pays très riches, les immigrés sont pourchassés, ils sont arrêtés, ils sont expulsés, ils sont rejetés, ils sont considérés comme responsables des maux qui minent la société. La parole de Dieu nous invite et nous incite à la miséricorde les concernant. Les pauvres, Eric nous parlait tout à l'heure de l'actualité. Si vous avez écouté, vous savez que depuis le 1er janvier, il y a de nombreuses personnes qui vont se retrouver sans revenus, du chômage. Peut-être que cela va se passer dans votre famille. Peut-être que cela se passera au sein de l'Église. Soyons attentifs à ces personnes autour de nous. Les pauvres sont aussi ceux qui n'ont pas droit de cité. Proverbe 31, verset 8 à 9 déclare « Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. » La véritable déchéance, ce n'est pas celle d'avoir droit à l'accès au roi, le roi humain. La véritable déchéance, c'est de disparaître de la présence du Seigneur définitivement. Tout à l'heure, dans les cantiques que nous avons chantés, il était question d'avoir son nom inscrit sur les mains de l'Éternel. La reine Vasti a été déchue. Elle a été renvoyée dans ce harem où elle sera oubliée. Le Seigneur veut nous amener à sa lumière, à saisir à travers cette parole, à travers sa parole, la vie qu'il veut nous donner, afin que nous puissions être éloignés de cette véritable déchéance alors qui sera la nôtre. Nous vivrons alors loin de l'Éternel, dans les ténèbres de l'enfer. L'apôtre Paul écrit en Philippiens 3, versets 12 à 14, « Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Aujourd'hui, Jésus-Christ prépare son Église parce qu'il veut la faire paraître dans sa splendeur devant le Père, comme l'indique Éphésiens 5, 27. Cette Église paraîtra alors sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. En attendant, l'Église est semblable à cette lampe allumée que l'on dépose sur la table pour éclairer dans les ténèbres qui sont celles du monde dans lequel nous vivons. Est-ce que nous voulons en tant qu'Église briller de la beauté de l'Éternel, de la beauté des belles œuvres que le Seigneur a longtemps préparées à l'avance pour que nous puissions les pratiquer? La reine Vasti, elle est déchue parce qu'elle refuse de montrer sa beauté aux convives du roi. Comme chrétiens, pouvons-nous montrer la beauté de l'œuvre de Dieu dans notre vie, au monde qui nous entoure? Nous voulons être en cette année 2026 des témoins authentiques, fidèles de l'œuvre de Christ dans nos vies. Que le Seigneur soit glorifié pour votre engagement renouvelé, pour notre engagement rafraîchi, enthousiaste, pour montrer au monde qu'aujourd'hui encore, malgré les soubresauts que nous connaissons, nous avons une vie qui nous est promise, une vie heureuse, dans la présence du Seigneur. Amen.